Hein, très bien. Alors, je suis très, très heureux d'être là aujourd'hui pour vous présenter mon métier d'astrophysicien, d'astronome, qui se trouve être aussi une passion. Et je crois que c'est important dans le monde d'aujourd'hui de pouvoir exercer sa passion au sein de son métier. Et donc, je voudrais vous montrer un petit peu ce qui est notre métier et vous ouvrir un petit peu à ce qui est ce qu'est l'astrophysique et que vous sortiez de cette salle avec plus de questions que celles que vous me poserez. Et c'est ça qui est intéressant avec la recherche, c'est que on est tout le temps en train de se poser beaucoup plus de questions que ce à quoi on répond. Alors il y a des grandes questions. Bon, laisse-moi me présenter un petit peu plus que ce que vous avez introduit. Donc je suis directeur du laboratoire d'astrophysique de Marseille. C'est un des plus grands instituts de recherche en astrophysique en France. Il y a près de 200 personnes qui travaillent sur l'astrophysique à Marseille. Et j'ai un parcours effectivement où j'ai commencé l'astronomie. Ma découverte, c'était à peu près à votre âge au lycée, où j'avais un prof de maths qui avait créé un petit club d'astronomie. On a dépoussiéré une lunette, on a amené ça sur le toit du lycée, et puis j'ai vu Saturne avec son anneau autour, et ça a été le déclic. Pour moi, c'était le début de la passion, et j'ai voulu en faire mon métier. Donc ça tient des fois à peu de choses, la façon d'être motivé dans son métier. Alors, beaucoup de questions posées par l'astrophysique. J'en ai posé quelques-unes dans cette première planche. Donc, si on veut essayer de décrire l'histoire de l'univers, évidemment, la première question, c'est quelle est notre origine ? Ensuite, on peut se demander que contient l'univers ? On a récemment, c'est-à-dire il y a à peu près un siècle, identifié que l'univers était en expansion. On peut essayer de comprendre. Après, il y a un certain nombre de constituants de l'univers. Ces constituants, comment se sont-ils formés, à quelle époque, donc les étoiles, les galaxies, c'est de comprendre d'où ça vient et d'essayer d'inférer où ça va, quel sera le futur. Donc on a une chance incroyable, nous autres astrophysiciens, c'est qu'on peut accéder au livre, à l'histoire de l'univers. On peut tourner les pages du temps et remonter jusqu'aux premiers instants de la vie de l'univers. C'est ce que je vais vous montrer. Donc c'est pas une construction de l'esprit, c'est vraiment par l'observation qu'on va remonter le temps dans l'univers. La petite image sur la droite, ça vous montre notre conception actuelle de la... Je sais pas si... Est-ce que vous voyez la souris, là, quand je la promène Vous voyez, donc, voilà. Donc sur ce petit schéma, là, ça représente l'espace-temps. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Donc, tout est parti d'un Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années, et puis il y a plein de choses qui se sont formées, les étoiles, les premières étoiles, les premières galaxies, et puis nous, on est là, 13,7 milliards d'années après, on observe l'univers. Alors, je vais poser quelques définitions, sans vous faire peur, mais juste pour montrer de quoi on parle. L'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui régissent l'univers. Et je vais vous parler beaucoup de physique, parce que la physique, justement, en s'appuyant sur les mathématiques, permet de décrire l'univers. La cosmologie, qui est mon domaine spécifique de recherche, utilise les lois de la physique pour décrire l'univers. On utilise des équations de la physique pour décrire l'univers. Et moi, je vais m'arrêter là. Il y a une limite, parce qu'ensuite, il y a d'autres. Vous allez sûrement me poser d'autres questions que celles auxquelles je vais essayer de répondre. Il y a la cosmogonie qui vise à établir une théorie de la création de l'univers sur des bases philosophiques ou religieuses. Là, on n'est plus dans la science. On touche à d'autres domaines. On touche à la philosophie. Il y a les religions qui viennent apporter leurs idées. Donc la recherche s'arrête. L'astrophysique s'arrête. C'est une frontière qui est la frontière de la connaissance. Et puis, il y a d'autres questions qui peuvent se poser, qui relèvent d'autres domaines que la recherche, d'autres domaines que la science. Alors, le contenu de l'univers, il y a un certain nombre de choses. Il y a vous, déjà. Il y a des planètes. La Terre, c'est une planète. Des étoiles. Le Soleil, c'est une étoile. Des galaxies. La Voie lactée, vous avez peut-être déjà vu en été, c'est notre galaxie. Je vous en montrerai un petit peu plus tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses, et donc il y a du gaz primordial qui était vraiment au début de la vie de l'univers, essentiellement de l'hydrogène, et c'est à partir de ça que tout ce qui nous entoure a été formé, c'est-à-dire qu'il y a eu une transformation progressive d'éléments chimiques depuis ce gaz primordial léger vers tous les éléments chimiques qui existent aujourd'hui. mais aussi des trucs qui sont beaucoup plus exotiques. On a mis en évidence qu'il y a de la matière noire dans l'univers et qu'il y a de l'énergie noire. Et je vous dis tout de suite que nous autres astrophysiciens, on n'y comprend rien. Et c'est une grande énigme de la physique d'aujourd'hui. Et il y a un grand nombre de recherches qui sont conduites pour essayer de répondre, de comprendre ce que sont ces deux composants majeurs dans l'univers. Alors je vais vous décrire un petit peu ce contenu, puis après j'irai plus vers la cosmologie, donc vers l'évolution de l'univers. Je vais utiliser souvent l'année-lumière. Alors l'année-lumière, bon, vous êtes en terminale, vous êtes capable de faire des petits calculs. Donc, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. La lumière voyage à 300 000 km par seconde, donc on arrive en un an à 9,5 10 puissance 12 km parcourus. Donc c'est déjà phénoménal. Mais pour nous, c'est une simplification en astrophysique, parce que les distances sont tellement énormes qu'on préfère parler en années-lumière plutôt que de trimballer des puissances de 10 en kilomètres. L'étoile la plus proche de nous, c'est 4 années-lumière. Donc 4 ans à la vitesse de la lumière pour que l'information de cette étoile nous parvienne. Le Soleil, qui est très proche, c'est 10 minutes pour la lumière. Alors, quelques constituants, donc les étoiles. Je vous ai dit que notre Soleil était une étoile. Là, ce que vous voyez, c'est une image de l'amas d'étoiles des Pléiades, qui est un amas d'étoiles jeunes. Toutes les boules lumineuses que vous voyez, là, les points bleus, sont des étoiles. Alors, il y a une croisée, une croix, là, c'est produit par le télescope, c'est produit par l'observation. Mais les étoiles sont des sphères de gaz, qui sont plusieurs centaines de milliers de kilomètres de diamètre, et qui émettent leur propre lumière. Alors pourquoi elles émettent leur lumière? C'est simplement parce que au centre d'une étoile, la pression, la température est tellement énorme que la matière, donc essentiellement l'hydrogène, rentre en fusion. Donc on a une fusion nucléaire constante au centre d'une étoile, et c'est cette fusion qui produit la lumière qui est émise par les étoiles. Autour des étoiles, il y a des planètes. Là, j'ai mis quelques exemples de planètes dans notre système solaire. Saturne, dont je vous parlais tout à l'heure, avec son anneau. Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire. La Terre, notre planète. Donc il y a un certain nombre de planètes autour du Soleil. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que depuis 1995, on connaît d'autres planètes autour d'autres étoiles que le Soleil. C'est ce qu'on appelle les exoplanètes. Et la première exoplanète a été trouvée en France, à l'observatoire de Haute-Provence. Et ça a été un peu une révolution quand même pour l'astrophysique, parce qu'il y avait quand même cette question anthropocentrique, de se dire, bon voilà, on a une planète, la Terre, autour d'un soleil, est-ce qu'on est seul, une planète. Donc là au moins on sait qu'il y a d'autres planètes autour d'autres étoiles. On ne sait pas encore s'il y a de la vie sur ces planètes, et c'est vraiment un enjeu aussi considérable dont je ne parlerai pas. C'est un autre domaine de l'astrophysique de comprendre d'où viennent ces planètes, comment elles se forment et comment elles peuvent être favorables, propices à la vie. Je change d'échelle, je passe aux galaxies. Une galaxie, c'est un assemblage d'étoiles essentiellement, mais aussi de gaz et de poussière. Une galaxie contient plusieurs milliards d'étoiles comme notre Soleil. Il y a plusieurs milliards de galaxies dans l'univers. Donc il y a des milliards de milliards d'étoiles. Bon, on peut imaginer que s'il y a des planètes autour de quelques étoiles, on peut imaginer qu'il y a quand même quelques milliards de planètes dans l'univers. Alors les galaxies, elles viennent avec des formes assez différentes. Là, j'ai mis deux images. Une galaxie spirale à gauche, on voit très bien, donc il y a un cœur très brillant, et puis il y a des bras spiraux qui contiennent une densité d'étoiles plus importante. Des endroits où il y a de la formation d'étoiles intenses, comme par exemple dans cette petite région là, les étoiles qui sont en train de se former. Donc les galaxies spirales sont des lieux où il y a encore de nouvelles étoiles qui se forment. Par contre, dans les galaxies elliptiques à droite, ce sont des objets qui sont plus anciens dans la vie de l'univers. Donc il y a très peu d'étoiles nouvelles qui se forment. Et on voit très bien avec ces deux exemples-là que, on voit très bien, on peut se poser la question d'où ça vient, comment ça se fait qu'il y a des galaxies spirales et des galaxies elliptiques, pourquoi elles ne sont pas toutes de la même forme, pourquoi on observe tout un bestiaire. Alors juste un petit zoom sur notre galaxie qui est la Voie lactée. Donc notre galaxie est une galaxie spirale, justement. Donc là, on la voit par la tranche. Hein, là, c'est l'analogue, cette galaxie-là, c'était l'analogue de notre Voie lactée, mais vue de face. Maintenant, sur cette image-là, on voit une galaxie spirale vue par la tranche. C'est un disque d'étoiles, hein, donc plusieurs milliards d'étoiles, un disque rempli d'étoiles. Donc nous, on est sur le bord. On n'est pas au centre de la galaxie, on est dans un bras spiral sur le bord de la galaxie. Et on voit, si vous imaginez donc ce petit point là, le Soleil, la petite planète autour du Soleil, quand on regarde le ciel, donc on voit les étoiles du ciel, il y a à peu près 6000 étoiles qu'on peut voir à l'œil nu, c'est la bulle bleue qui est identifiée là. Toutes les étoiles que vous voyez sont dans cette bulle bleue. Et quand vous regardez le plan de la galaxie, vous voyez cette bande lumineuse qui s'appelle la Voie lactée, qui est donc notre galaxie vue de l'intérieur, puisqu'on est à l'intérieur de ce disque, donc on voit cette bande qui traverse le ciel. Donc on essaye de comprendre comment un objet aussi complexe a pu se former au cours du temps cosmique. Vous voyez les dimensions, c'est assez gigantesque, hein, donc 70 années-lumière d'un bord à l'autre de notre galaxie. La première galaxie la plus proche de nous, c'est la galaxie d'Andromède. Elle est à peu près 2 millions d'années-lumière, donc 2 millions d'années pour la lumière, pour que la lumière nous parvienne de la galaxie la plus proche d'entre nous, de nous. Et on observe des galaxies jusqu'à 13 milliards d'années de nous, les galaxies les plus distantes. Alors la Voie lactée, pour ceux qui ne l'ont jamais vue, enfin, je pense quand même qu'au puits, autour du puits, là, le ciel doit être suffisamment clair pour que vous ayez vu la Voie lactée quand même une fois. Donc c'est cette bande lumineuse qui traverse le ciel, ça, là c'est vu depuis plusieurs observatoires, l'observatoire du Mauna Kea à Hawaï, l'observatoire du Chili à Paraná. Là, c'est une construction en bas qui vous montre, c'est plusieurs images juxtaposées, qui vous montre notre galaxie telle qu'on la voit. Donc on est de l'intérieur et on arrive à voir qu'il y a un centre qui est plus proéminent avec une densité d'étoiles importante et puis une distribution d'étoiles aplatie et des nuages de gaz, donc il y a tout un ensemble de composants. Et si on fait un zoom sur certaines parties de la galaxie, ben voilà un petit peu ce qui se passe. Ben, il y a des endroits où il y a des étoiles qui sont en train de se former à partir de ces cocons de gaz, un cocon d'hydrogène. L'hydrogène se condense, la température, la pression augmente, les réactions nucléaires commencent et une étoile naît. Donc à partir de ces nuages de gaz. Quand l'étoile a fini de vivre, je vais y revenir plus tard, bah l'étoile explose et elle rejette une partie de sa matière dans l'espace et de nouvelles étoiles vont se former à partir de cette matière qui est relâchée dans l'espace. Voilà, les étoiles naissent, vivent et meurent sur des échelles de temps qui vont de quelques dizaines de millions d'années jusqu'à quelques milliards d'années. Notre Soleil a à peu près 5 milliards d'années d'âge, on pense qu'il va vivre encore à peu près 5 milliards d'années. Alors pourquoi il y a une vie? Simplement parce que ce nuage de gaz qui s'est concentré, ben c'est un réservoir de gaz, et ce réservoir, il n'est pas infini. Et donc il y a un moment où la boule de gaz de l'étoile, ben simplement, elle va transformer au fur et à mesure des réactions nucléaires, elle va transformer son gaz en énergie, et puis ben, à un moment, il n'y a plus de gaz, donc l'étoile, elle va s'éteindre. Et dépendant de sa masse, elle s'éteint de différentes façons. Soit elle va finir en tant que supernova, cet objet en bas à droite, c'est une gigantesque explosion, c'est les étoiles les plus massives qui finissent leur vie en supernova. Ou alors elle peut finir, j'en ai pas d'exemple sur ces images-là, mais elle peut finir comme naine blanche, c'est une étoile qui émet quasiment plus de lumière, ou même comme un trou noir, c'est-à-dire une étoile qui s'est effondrée sur elle-même, de laquelle même la lumière ne peut plus s'échapper. Le trou noir, c'est la dernière phase de vie de certaines étoiles. Alors, donc, je disais que les galaxies prennent des formes diverses, donc spirales, elliptiques, irrégulières, avec des formes un peu bizarres. Et ces formes sont en fait le témoignage de leur histoire. Donc, elles ont été façonnées tout au long de leur histoire. Et c'est cette histoire qu'on aimerait bien comprendre, comment les galaxies, au cours du temps, ont pu donner toutes ces différentes formes. Alors, revenons aux origines. D'où viennent toutes ces étoiles et toutes ces galaxies? Alors, ça fait à peu près, depuis 1927, que l'on a une théorie qui met l'univers en équation. C'est la fameuse théorie du Big Bang, qui est une construction mathématique et physique de l'univers. et qui en fait se résume à cette équation que j'ai mise ici. Je ne vais pas vous la décrire en détail, mais ça montre que les choses en fait sont relativement simples au départ. C'est une équation qui régit l'ensemble de l'univers. Alors, ça peut paraître un peu prétentieux, mais ça marche quand même pas mal. Et dans cette équation, il y a différents termes. Des termes qui décrivent la déformation de l'espace-temps due à la matière. Il y a des termes qui décrivent la géométrie de l'univers. Il y a des termes qui définissent sa courbure et des termes qui définissent son contenu en énergie. Et tous ces termes-là, on pense aujourd'hui les maîtriser relativement bien, les comprendre relativement bien. Peut-être que d'ici un an, 10 ans, 100 ans, il va y avoir une nouvelle théorie qui sera plus générale. Hein, avant la théorie de la relativité, avant la théorie d'Einstein et Big Bang, il y avait la théorie newtonienne. Si on remonte jusqu'aux Grecs, ils pensaient que la Terre était plate et puis que tout était statique. On a quand même évolué et à chaque fois c'est un pas supplémentaire de la connaissance, un pas de la physique. Donc, peut-être que la théorie du Big Bang, elle est incomplète. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. On pense que peut-être elle est incomplète et qu'il y aura besoin d'une théorie encore plus général. Alors, voilà un petit peu la chronologie de cette théorie du Big Bang. Donc le Big Bang, il est né précisément il y a 13,7 milliards d'années. Donc c'est une mesure, c'est pas théorique. Les premières étoiles sont apparues très rapidement, 13,5 milliards d'années dans le passé. Les premières galaxies aussi assez rapidement, 13 milliards d'années dans le passé. Et puis système solaire, comme je vous le disais, ça fait à peu près 5 milliards d'années. Donc c'est toute cette chronologie autour du temps cosmique qu'on essaye d'expliquer avec l'astrophysique. Alors j'ai oublié de dire quand même que un des éléments importants, c'est que la géométrie de l'univers, c'est une géométrie à 4 dimensions. On a l'habitude dans la vie de tous les jours d'une géométrie à 3 dimensions. C'est là-dedans qu'on se déplace. Mais en fait, si je vous dis qu'on est en train de se déplacer à 270 km par seconde, la vitesse du Soleil autour du centre de la galaxie, vous réalisez que tout ça c'est relatif et qu'en fait la relativité, elle est liée aussi au temps, elle est liée à la matière, au contenu de l'univers. Donc cet univers à 4 dimensions, il est un peu difficile à appréhender et on peut l'appréhender facilement entre guillemets avec les équations de la physique qui nous permettent de comprendre mieux les choses que simplement la perception que l'on a avec nos sens qui sont plutôt orientés à 3 dimensions. Alors, donc, né à 3,7 milliards d'années dans le passé, il y a un premier paramètre qui s'appelle la constante de Hubble qui donne cette valeur de 13,7 milliards d'années qui est une mesure, comme je disais, je vous montrerai comment on le mesure. Donc c'est notre cadre principal, le Big Bang. On entend souvent dans la presse le modèle du Big Bang est remis en question. Il n'est pas remis en question du tout. C'est un modèle qui est pérenne maintenant depuis plus de 80 ans. Là où il y a questionnement, c'est sur les détails de ce modèle. Effectivement, il y a beaucoup de recherches pour affiner ce cadre principal. Et les détails sont assez importants, puisque seulement 5% de la matière est visible. Quand vous regardez les étoiles, ces étoiles constituent seulement 5% de l'ensemble de la matière de l'univers, de la masse énergie. C'est ce petit camembert là qui est identifié ici. Donc les éléments visibles ici, donc les étoiles, le gaz, c'est 4,5%. Les éléments lourds, les neutrinos, les trucs un peu exotiques. Et le reste, il y a 23% de cette matière noire dont je vous ai parlé tout à l'heure, et 72% d'énergie noire. Je vais y revenir, parce que ça vous montre à quel point on est ignorant sur le contenu de l'univers. On ne connaît bien que 5%, grosso modo, de ce qui constitue l'univers. Alors, on a des preuves du Big Bang. C'est ça qui est quand même assez fascinant avec une théorie, et c'est important pour toute théorie, d'ailleurs, de pouvoir être validée par l'observation. Une théorie qui n'a pas de prédiction vérifiable est une théorie nulle et non avenue. Parce qu'elle n'a aucune utilité, aucun sens. Une théorie doit être prédictive et vérifiable. Donc le Big Bang, la théorie du Big Bang, fait des prédictions. Et il se trouve que ces prédictions, elles sont vérifiées avec une précision hallucinante. En particulier, pour en exister quelques-unes, mais ce n'est pas les seules, l'univers a une température de 2,7 Kelvin Kelvin, c'est une unité de température absolue. 0 Kelvin, c'est quand la matière est complètement vide, aucun mouvement. Et donc ça fait à peu près moins 270 degrés centigrades. Alors ça, c'est assez génial, parce que quelle que soit la direction où vous regardez dans l'univers, on mesure précisément cette température de 2,7 Kelvin. Et ça a commencé par Penzias et Wilson qui travaillaient sur les radars au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et sur leurs radars, ils avaient tout le temps un bruit de fond qu'ils ne comprenaient pas. Et ce bruit de fond, quelle que soit la direction, ils pointaient leur antenne, il y avait toujours ce bruit. C'est en parlant avec des collègues physiciens qui se sont rendus compte qu'il y avait éventuellement une connexion avec la théorie du Big Bang, avec la théorie élaborée par Einstein et ensuite validée. La théorie à l'époque a fait à peu près une vingtaine d'années et ça a été le premier grand succès du modèle du Big Bang, c'est justement de prédire cette température de 2,7 degrés qui est le résidu de l'explosion primordiale, hein, qui était la température de l'univers initialement était extrêmement élevée, plusieurs millions de degrés, et l'univers étant en expansion, hein, c'est la théorie du Big Bang avec l'expansion, l'univers étant en expansion, la température a tendance à diminuer au cours du temps, et on peut le mettre en équation et dire la température au cours du temps égale 2,7 degrés après 13,7 milliards d'années d'évolution. C'est vraiment spectaculaire. Une autre preuve du Big Bang, c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse. La nucléosynthèse, c'est la transformation des éléments primordiaux dans l'univers, comme l'hydrogène, qui était l'élément dominant. Donc la nucléosynthèse, c'est la transformation des éléments les plus légers, donc l'hydrogène, l'hélium, etc., dans les éléments les plus lourds. Et cette transformation se fait au cœur des étoiles, avec ces réactions chimiques, ces réactions nucléaires dont je vous parlais. Donc l'hydrogène se transforme en hélium, l'hélium et l'hydrogène, tout ça, ça va former du carbone, l'oxygène, tous les éléments sont formés au cœur des étoiles. Vous êtes vous-même issu des étoiles, puisque vous êtes formé essentiellement de carbone, vous avez été façonné au cœur des étoiles. Donc ça, cette nucléosynthèse prédit exactement les abondances chimiques, c'est-à-dire le nombre d'atomes de chaque catégorie. Et on peut aller mesurer dans l'univers, on mesure exactement l'équilibrage, la répartition des éléments chimiques prévus par la théorie du Big Bang. Une autre preuve importante, c'est cette fameuse expansion. L'univers est en expansion. Je vais vous montrer comment on le mesure. Une autre preuve qui est plus indirecte, c'est que les galaxies évoluent, donc l'univers n'est pas statique. On a une preuve que les galaxies, elles changent, leurs propriétés changent au cours du temps. Alors, la température du ciel, comment on est capable de mesurer la température du ciel sur tout le ciel? On construit des expériences, en particulier des expériences qui vont dans l'espace, parce qu'il n'est pas possible de mesurer l'émission d'une température à 2,7 Kelvin depuis la Terre, parce que c'est un rayonnement micro-ondes qui est mis dans les longueurs d'onde micro-ondes. Et donc on a construit des satellites, en particulier le dernier en date qui a publié des résultats, c'est WMAP, un satellite qui a fait une carte de l'ensemble du ciel, une carte de température. Donc il a été mesuré avec ce qui s'appelle des bolomètres, on peut mesurer la température du ciel. Alors cette température, ce qui est aussi fascinant, c'est que donc il y a 2,7 Kelvin qui est le résidu de l'explosion, mais aussi vous voyez que la température elle n'est pas complètement homogène. Vous voyez qu'il y a des endroits où la température elle est un peu plus froide, les régions bleu sombre, ou un peu plus chaude, les régions rouges. Mais les variations de température, c'est de 1 centmillième, c'est extrêmement, extrêmement faible. Mais ces fluctuations de température, en fait, codent le génome de tout l'univers, puisque après, avec l'évolution, avec la gravitation qui agit au cours du temps, avec un certain nombre de forces physiques qui agissent, eh bien, ces petits grumeaux, ces variations de température, vont être les cœurs, les noyaux de la formation de toutes les étoiles et de toutes les galaxies dans l'univers. Un petit noyau un peu plus dense que le reste, va avoir tendance à attirer la matière qui est autour, et puis ça fait boule de neige, ça fait des régions du ciel qui sont de plus en plus denses, qui forment des étoiles, les étoiles attirent d'autres étoiles, qui forment des galaxies, etc. Je fais un petit retour, parce que je vais m'en servir, sur ce qu'est le spectre électromagnétique. Bon, je pense qu'en terminale, je vais savoir ce que c'est quand même. Donc la lumière transporte l'information, Le spectre, vous en avez un exemple avec, les arcs-en-ciel, qui est simplement la lumière du soleil qui est dispersée par les gouttes d'eau de pluie, hein, qui font un petit prisme et qui dispersent les couleurs. Donc la lumière du soleil contient des longueurs d'onde qui vont depuis l'ultraviolet jusqu'au rouge, et notre œil perçoit ce qu'on appelle la lumière visible par notre œil. Mais dans ce spectre électromagnétique, il y a d'autres longueurs d'onde. Il y a les rayons X que vous connaissez, il y a les ondes radio, tout ça c'est le spectre électromagnétique. Et ce spectre électromagnétique véhicule l'information depuis les objets, ce qu'on observe, et en particulier depuis les objets astrophysiques. Et pour nous, c'est une source d'information extrêmement importante, puisque on est capable, même à grande distance, de connaître la composition, la vitesse interne des objets les plus distants, parce qu'on a accès à ce spectre électromagnétique. Il y a des signatures spécifiques, là il y a juste un exemple, c'est le sodium. On sait en laboratoire que le sodium a une émission lumineuse dans les bandes jaunes, dans les bandes rouges, et cette émission lumineuse, elle est à une longueur d'onde précise répertoriée en laboratoire. Quand on est capable de trouver ces longueurs d'onde dans un objet extragalactique, on est capable de mesurer la quantité de sodium présent dans un objet. Sodium ou n'importe quel autre élément chimique. Alors ce spectre électromagnétique, du fait de l'expansion, il est décalé vers le rouge, le fameux décalage vers le rouge, ce qu'on appelle le redshift en anglais, ce qui est un effet Doppler. Quand vous avez une ambulance qui vient vers vous, vous entendez le son de l'ambulance qui est un peu plus aigu, et quand l'ambulance s'éloigne de vous, le son est un peu plus grave. La prochaine fois, faites attention, vous allez le noter, c'est assez perceptible. Et bien pour les objets dans l'univers, c'est pareil. Les galaxies qui s'éloignent de nous, leur spectre électromagnétique est décalé vers le rouge. Les objets, il y en a très peu qui se rapprochent de nous, leur spectre électromagnétique est décalé vers le bleu. Alors, dans la théorie du Big Bang, dans l'espace-temps, ce redshift, ce décalage vers le rouge, en fait, mesure la distance des galaxies, parce que c'est lié à l'expansion. Plus l'expansion, plus le temps dans l'univers est grand, plus les objets ont eu le temps de s'éloigner les uns des autres, donc plus la distance entre les objets est grande. Et la vitesse de la lumière étant finie, quand on observe loin, en fait, on observe dans le passé. Je vous donnais les exemples tout à l'heure, le Soleil c'est à 10 minutes de lumière, la première galaxie c'est à 2 millions d'années-lumière, les galaxies les plus distantes c'est à 13 milliards. Donc on est capable comme ça de regarder les strates du temps de l'univers grâce à ce décalage vers le rouge. Il suffit d'observer l'univers de plus en plus profond et on remonte dans le temps. Alors c'était une première révélation et une autre confirmation de cette théorie du Big Bang, le fait que les galaxies semblent s'éloigner les unes des autres. Donc ça c'est les premières mesures qui ont été faites par Edwin Hubble, qui a démontré cette expansion. Donc ce que vous voyez là, c'est trois spectres électromagnétiques, couvrant du bleu vers le rouge, de galaxies qui sont de plus en plus distantes. Les images de ces galaxies, elles sont de plus en plus petites, elles sont de plus en plus loin. Donc Hubble a été capable de mesurer dans chacun de ces spectres électromagnétiques ces deux raies caractéristiques du calcium, qui est un élément assez abondant. Et on voit que ces raies du calcium ne sont pas au même endroit dans le spectre électromagnétique en fonction des objets. Et il a pu mettre ça sur une équation qui est fameuse. C'est son article en 1929, qui est une loi qui s'appelle la loi de Hubble, qui montre que la vitesse est proportionnelle à la distance. L'expansion de l'univers, plus la distance est grande, plus la vitesse est grande, l'univers est en expansion. C'est exactement prédit par la théorie d'Einstein. Ce facteur de proportionnalité, cette constante de Hubble, est exactement prédit par la théorie d'Einstein. Alors encore plus étonnant, et ça c'est récent, c'est en 1999, il a été démontré que l'expansion de l'univers s'accélère. Vous imaginez, vous soufflez dans un ballon, vous soufflez régulièrement, le ballon se gonfle, le ballon il se gonfle encore plus vite qu'avant. Et c'est relativement récent dans la vie de l'univers, c'est sur les quelques derniers milliards d'années de la vie de l'univers. Donc 13,7 milliards d'années d'âge, et sur à peu près 4 ou 5 milliards d'années, cette expansion, les derniers 4-5 milliards d'années, l'expansion s'est accélérée. Ça, on a pu utiliser ce qu'on appelle les supernovas, qui représentent des phares dans l'univers, pour nous donner des balises, qui permettent de mesurer cette accélération de l'expansion. Je ne donne pas les détails de ça, mais là aussi c'est une mesure, c'est pas une élucubration, c'est réellement mesuré. Alors, pourquoi cette accélération? Qu'est-ce qui peut produire une accélération dans l'univers? Hein, on imagine bien que, au bout d'un moment, on imaginait avant que ce ballon qui était en train de se gonfler, cet univers qui était en train de s'étendre, peut-être qu'il allait manquer d'énergie et qu'à un moment, l'expansion allait se ralentir et peut-être que l'univers allait se recontracter pour former ce qu'on appelle un Big Crunch. Je sais qu'il y a un groupe de musique qui s'appelle Big Crunch, mais on saurait que c'est lié à la théorie de la relativité. Il y a le Big Bang et il y a le Big Crunch. Donc on pensait que l'univers n'aurait pas assez d'énergie. Mais en fait, cette accélération de l'expansion montre qu'il y a plus d'énergie. Il y a de l'énergie qui a été injectée et il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est cette fameuse énergie noire. On en voit les effets. Donc l'univers a plus d'énergie que ce qu'on avait anticipé, que ce qu'on avait calculé. Donc il y a une nouvelle force, il y a une nouvelle composante que l'on qualifie d'énergie aujourd'hui qui fait que cet univers accélère son expansion. Alors, tous ces différents ingrédients, les équations, l'équation très simple que je vous ai montrée, et puis bon, un certain nombre d'autres équations, peuvent être rentrées dans un ordinateur pour faire des simulations numériques en utilisant les plus grands supercalculateurs de la planète. Et on peut prédire l'évolution de l'univers sur la base de la physique que l'on connaît. Donc on met les équations du Big Bang dans un supercalculateur. Et l'idée, c'est, une fois qu'on a un univers sous forme de jouet, entre guillemets, on peut modifier les ingrédients qu'on met dans l'ordinateur, on fait tourner l'ordinateur, et puis on va avoir différents univers, différentes façons de représenter l'univers. Et c'est de la confrontation de ces modèles avec les observations, que l'on va dire, oui, l'univers avec tel type d'ingrédients, ça colle pas avec les observations, celui-là non plus, celui-là non plus, ah, celui-là, tiens, il se rapproche. Et c'est comme ça qu'on avance dans notre compréhension des détails du Big Bang, c'est en confrontant les observations avec les simulations numériques. Hein, donc dans les équations de la physique, il y a des paramètres, et ces paramètres, on peut les ajuster un petit peu pour changer l'univers. Alors, ça, c'est une simulation qui a été faite par un groupe français, c'est une simulation Horizon. Et tout ça vous montre, ça part de ces fluctuations primordiales, les fluctuations de température dont je vous parlais, là, dans la température à 2,7 Kelvin, puis on applique les lois de la physique, et on regarde ce qui se passe. Et malheureusement, avec la lumière, on ne voit pas grand-chose. Ce que vous voyez apparaître, c'est il y a des zones plus denses qui apparaissent dans l'univers. Vous voyez cette dynamique de l'univers avec... Donc les filaments, des endroits très denses et puis des endroits plus vides qui se mettent en place. Et donc c'est vraiment ce qui est observé dans l'univers. Mais évidemment les simulations ont des limitations, les ordinateurs ont des limitations et donc on n'arrive pas aujourd'hui à avoir autant de détails dans une simulation par ordinateur que la réalité de l'univers. Voilà, donc c'est ce genre de simulation numérique qu'on est capable de confronter les observations. Et ça, c'est terminé. Voilà. Donc il y a une structure, l'univers en fait a une structure en éponge. Vous voyez bien qu'il y a ces régions de vide, ces régions de filaments, et c'est un peu spongieux comme structure. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc là, voilà quatre différents modèles de Big Bang, où on a ajusté un petit peu les paramètres. Donc quatre modèles, et puis trois époques. Ça, c'est assez tôt dans la vie de l'univers, ça, c'est à peu près à la moitié de la vie de l'univers, et ça, c'est aujourd'hui. Vous voyez la différence au cours du temps, et vous voyez aussi la différence d'apparence de l'univers en fonction des paramètres qu'on a rentrés dedans. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est mettre en face de ces modèles des observations réelles de quoi a l'air l'univers. Ah, je vais passer peut-être un peu là-dessus parce que c'est un petit peu différent. Donc, les galaxies évoluent, elles interagissent, il y a plein de forces physiques qui font qu'elles sont modelées au cours du temps, et ça participe à cette évolution globale de l'univers, à cette expansion. Et donc, on a un certain nombre de paramètres que l'on peut rentrer dans ces fameux modèles, en particulier cette matière noire. La matière noire, qu'est-ce que c'est ? Réponse, je ne sais pas. Je sais que ça existe, parce que je le mesure. Et on le mesure comment ? On le mesure en regardant la rotation d'une galaxie. Vous faites un peu de mécanique, donc un corps attire un autre corps, il y a des lois qui régissent ça, et bien une galaxie, elle obéit à ses lois. Hein, et donc avec une masse centrale qui est importante, et bien, cette masse elle va se faire sentir sur les bords de la galaxie, et puis bien, une galaxie ça tourne. Donc, les étoiles sont en orbite autour du centre de la galaxie. Et donc si on prend un modèle où on ne compte que les étoiles, que la masse des étoiles, eh bien voilà ce qu'on observerait, ça c'est la vitesse en fonction de la distance au centre de la galaxie. Eh bien, on observerait cette distribution de vitesse en pointillé, mais en fait on n'observe pas ça du tout, on observe la ligne en trait plein. Donc la vitesse de rotation des étoiles ne diminue pas sur les bords de la galaxie, et ça ne peut venir que d'une masse très importante qui est à peu près 3 ou 4 fois plus importante que la masse d'étoiles, voire plus. Hein, donc c'est une preuve indirecte, on en voit les effets. Un autre effet qui est vraiment spectaculaire, c'est ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles. Alors l'analogue que vous connaissez, c'est les mirages dans le désert. Produits par la chaleur, vous allez voir des choses qui sont un peu inversées parce qu'il y a des effets optiques qui se produisent. Eh bien, dans l'univers, il y a des effets optiques qui peuvent se produire. Si à un endroit de l'univers, il y a une masse extrêmement importante, eh bien, cette masse va avoir tendance à défléchir les rayons lumineux et donc à distordre les objets qui sont derrière cette masse. C'est ce que vous voyez directement sur cette image ici. Donc, il y a ce qu'on appelle un amas de galaxies. Il y a plusieurs galaxies qui sont concentrées dans une région de l'univers. Et derrière, il y a la lumière d'une galaxie qui a été complètement distordue sous cette forme d'arc, qu'on appelle un arc gravitationnel. Et ça aussi, c'est une prédiction d'Einstein. C'est simplement la matière intégrée dans cet amas de galaxies est suffisante pour défléchir les rayons lumineux des objets d'arrière-plan. Et là aussi, quand on calcule la masse nécessaire, la masse d'étoiles qui sont dans les galaxies visibles n'est pas suffisante pour faire cette déflexion. Il faut de la masse en plus, et de la matière noire, matière sombre, à peu près aussi d'un facteur 5 à 10. Voilà. Alors, on n'en connaît pas l'origine de cette matière noire. Il y a plusieurs hypothèses qui font l'objet de recherches assidues, en particulier de savoir si c'est une nouvelle particule qui pourrait avoir échappé à la détection des grands accélérateurs de particules. Ça peut être aussi le résidu d'étoiles mortes. Les étoiles qui ont fini leur vie et continuent à être là, à avoir une masse qui existe, une masse sombre. Et donc, cette matière noire, pour le moment, on n'a pas encore idée de ce que c'est. C'est peut-être une combinaison de plusieurs choses. Alors, une des choses qui a émergé récemment de l'astrophysique, c'est le fait que les galaxies évoluent. Récemment, c'est à peu près une quinzaine d'années, où on est capable donc d'aller remonter dans le temps, de mesurer la distance des galaxies, d'observer des galaxies de plus en plus faibles, d'observer des grands volumes d'univers, montrer qu'on observe des grands volumes, mais c'est pas si grand que ça, et d'observer un nombre important de galaxies pour faire des sondages. Hein, donc on fait auprès des galaxies ce que les journaux font auprès des populations, c'est-à-dire qu'on va poser des questions à nos galaxies et on va faire en sorte que les échantillons soient représentatifs pour que les questions qu'on leur pose aient les bonnes réponses. Donc pour faire ça, il faut aller mesurer. Donc là, ça connecte, je crois, avec votre thème de l'année qui est l'homme et la machine. Donc on utilise des machines pour aller mesurer l'univers. On a des grands télescopes qui sont aussi bien au sol que dans l'espace, qui vont répertorier les galaxies et qui vont mesurer leur distance. Une première phase, c'est donc de répertorier. Et on utilise en particulier le télescope franco-canadien qui est à Hawaï. Là, ce que vous voyez, c'est une des plus grandes caméras CCD du monde. CCD, vous avez ça sur vos appareils photo, hein, ça a été inventé par les astrophysiciens, donc des fois on fait des choses utiles, parce que ça, se retrouve dans tous les portables actuels. Donc les petits appareils photo que vous utilisez, en fait, c'est des CCD, ces petits éléments d'image qui ont été développés par les astrophysiciens il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. Ça, c'est la plus grosse caméra, là, le plus gros appareil photo au monde, et qui permet de faire des images des galaxies, et qui permet d'avoir, si juste deux secondes il pouvait y avoir la lumière qui est éteinte, ça serait super. Voilà, donc ça c'est une image profonde donc du ciel qui est obtenue avec ce télescope. Et ce que vous voyez, tous les petits points, c'est en fait une galaxie comme notre Voie lactée. Donc une galaxie avec plusieurs milliards d'étoiles, hein, chaque petit point. Là vous voyez qu'une concentration, c'est un amas de galaxies. Voilà, donc ça c'est une région très petite du ciel qui correspond à peu près à un quart de la surface de la pleine Lune. Et dans ce quart de la surface de la pleine Lune, il y a plusieurs milliers de galaxies qui chacune contiennent plusieurs milliards d'étoiles. La prochaine fois que vous regardez le ciel, pensez à ces chiffres-là, ça donne le vertige. Enfin, merci pour la lumière. On peut revenir. Ça c'est une image du télescope spatial Hubble. C'est une des images les plus profondes du ciel qui ont été obtenues. Et on voit que ces points lumineux, en fait, sont un peu étendus, et dépendant de la distance de la galaxie, de sa forme, etc., ben, on voit des galaxies avec des bras spiraux, des galaxies plus elliptiques, et donc il y a un bestiaire. Mais ce qui est impossible en regardant une image comme ça, c'est de dire que telle galaxie, tel objet est plus proche ou plus distant. On en a un petit peu une idée par la taille, mais pas quand même précisément. Et donc ce que l'on a besoin de faire, c'est d'aller mesurer précisément la distance de chacun de ces objets, de mesurer ce décalage vers le rouge, comme je vous disais, qui est lié à la distance. Et donc, on a besoin de faire une cartographie, comme un explorateur qui va découvrir un nouveau continent. Eh bien, on va faire une cartographie de l'univers. On va mesurer la position, précisément, dans l'espace, de chacune de ces galaxies. Donc, c'est ce qui a été fait par un certain nombre d'observations. Ça a été fait de façon assez complète, assez proche de nous, par deux grands sondages de l'univers, l'un qui s'appelle DODESEF Galaxy Redshift Survey, l'autre qui s'appelle le Sloan Digital Sky Survey, où il y a plusieurs millions de galaxies qui ont été mesurées une par une, ou mieux, plusieurs à la fois, pour faire cette cartographie. Et on a utilisé, nous, à Marseille, le très grand télescope du Chili, pour lequel on a construit un instrument spécifique, je vous expliquerai ce que c'est qu'un instrument, pour aller mesurer ces distances. Donc voilà le résultat des mesures. Donc c'est une cartographie, évidemment 3D c'est un petit peu difficile, à 3 dimensions c'est un peu difficile à représenter, donc là c'est une projection dans un plan, et ce que vous voyez, c'est effectivement que les galaxies sont distribuées en filaments, hein. Les régions les plus rouges c'est là où il y a le plus d'objets, les régions bleues c'est là où il y en a le moins. Vous voyez, des régions très denses, des régions où il y a moins de galaxies, c'est un peu filamenteux, c'est un peu spongieux, hein, donc ça correspond. Là, c'est la version réelle de l'univers, comparée à la version simulée que je vous ai montrée tout à l'heure. Hein, donc nous, on est au milieu, là, et en fait, si on regarde de chaque côté, si vous voulez, c'est une projection. En fait, on a tout le volume d'univers assez proche de nous, jusqu'à à peu près 3 milliards d'années de retour dans le passé, où on a cette description de la distribution des galaxies. Donc on connaît leur position. Si on veut aller encore plus loin, si on veut remonter dans le temps plus loin que 3 milliards d'années, il faut les télescopes les plus puissants de la planète. Et on a la chance en Europe d'avoir construit un très très grand télescope qui s'appelle le VLT, Very Large Telescope, qui est implanté sur une montagne des Andes. C'est un endroit où il pleut extrêmement rarement. Il y a des endroits, c'est le désert d'Atacama, il y a des endroits où il n'a pas plu depuis 4000 ans. Il se trouve que depuis qu'il y a eu l'observatoire qui s'est installé, il y a eu des tempêtes de neige, etc. Mais enfin, c'est un détail. Ça, c'est le télescope VLT. Donc, c'est quatre télescopes, chacun fait 8 mètres de diamètre. Un télescope, c'est un grand entonnoir à lumière. Plus le diamètre du télescope est grand, plus l'entonnoir est grand, et les photons qui viennent du ciel, ils sont collectés, et ils sont amenés au foyer du télescope. Donc au foyer de ce télescope, on est capable d'analyser la lumière de ces objets. Donc on ne met pas l'œil, ça fait longtemps que les astronomes n'utilisent plus leur œil pour observer, mais utilisent des caméras de type CCD pour faire les images que je vous ai montrées tout à l'heure, ou des spectrographes, donc des instruments qui sont capables de mesurer ce spectre électromagnétique et d'aller avoir à la fois le contenu des objets et leur distance. Donc cet instrument, vous voyez le télescope est en fait ici, son miroir est un peu caché, il pointe vers le ciel, Donc vous voyez son diamètre, l'ouverture est représentée ici, donc il pointe vers le ciel, et il amène la lumière dans cette grosse boîte. Hein, cette grosse boîte, elle fait 4 tonnes, ça fait 3 mètres de côté, et là-dedans, il y a, c'est extrêmement complexe, c'est tout un ensemble optique, donc des éléments de verre qui sont assez énormes, de la mécanique, de l'électronique, pour pouvoir analyser ce qui vient du ciel. Donc c'est vraiment une grosse machine. Qui nous permet d'analyser. Alors cette machine, elle produit ces spectres électromagnétiques, mais elle en produit à l'appel. Elle en produit 1000 d'un coup. Donc il y a 1000 galaxies qui sont observées d'un seul coup. C'est les petits traits que vous voyez. Chaque petit trait vertical, il y en a un qui est agrandi ici. Donc chaque petit trait contient l'information. C'est ce trait vertical ici que vous voyez, ce trait lumineux, c'est l'information d'une galaxie. Et là-dedans, on est capable de mesurer la distance et de mesurer la composition des principaux éléments chimiques. C'est une galaxie qui est à 10 milliards d'années de nous, donc sa lumière a mis 10 milliards d'années pour nous parvenir. Donc inversement, on la voit telle qu'elle était, donc 3,7 milliards d'années après le Big Bang, donc à une époque où l'univers était très jeune. On en mesure 1000 d'un coup. Et ce que l'on fait, c'est ce que je viens de dire, ça illustre ce que je viens de dire. Donc on voit, ça c'est ce fameux spectre électromagnétique, hein, depuis le bleu et le rouge. Et dans ce spectre, typique de galaxies, on observe des signatures. Par exemple, cette signature ici, c'est la signature de l'oxygène. Cette signature ici, c'est la signature de l'hydrogène. Ici, c'est le silicium, etc., etc. Et donc on est capable d'avoir une idée du contenu de chacune des galaxies. Alors une fois qu'on a répertorié un certain nombre de milliers d'objets, on peut en faire la cartographie, encore une fois. Donc, voilà un exemple de carte de ce qu'on fait. C'est une des cartes les plus profondes qui a été faite. Donc, l'observateur est ici et regarde dans le passé. Donc là, on est à peu près à 1 milliard d'années, 3 milliards d'années, 5 milliards d'années, 7, 8, jusqu'à 10 milliards d'années. Donc, à chaque tranche, en fait, à chaque galaxie, sa tranche de temps, si je peux dire. Donc on remonte comme ça à plus de 90% de l'âge de l'univers. Alors on peut se poser des questions, on peut se demander où vivent les galaxies. Est-ce qu'elles vivent plutôt dans des régions désertes ou des régions extrêmement peuplées? Donc on voit des régions de l'univers où il y a ce qu'on appelle des champs vides, il y a très peu d'objets, il y a d'autres endroits où il y a des amas de galaxies, c'est extrêmement dense. Et ce que l'on voit, c'est que les galaxies les plus bleues, les galaxies spirales, sont dans les régions les plus vides, alors que les galaxies rouges, les galaxies elliptiques, sont dans les régions les plus peuplées. Donc on se dit qu'il y a quand même une relation, c'est-à-dire que l'environnement d'une galaxie va avoir un effet sur son évolution. Hein, donc ça montre qu'effectivement, au cours du temps cosmique, eh bien les galaxies vont être façonnées, elles sont façonnées différemment, dépendant de la densité de collègues autour d'elle. Alors pour terminer, je veux juste vous montrer que j'ai posé plein de questions, je n'ai pas répondu à beaucoup, et donc on continue à essayer de répondre à ces questions. Hein. La question des origines, elle reste quand même entière, parce que les scénarios que je vous ai proposés sont assez cohérents aujourd'hui, donc on a de bonnes idées sur ce qui s'est passé, mais on n'a pas c'est pas un dogme, c'est pas figé, il y a encore plein de questions, on essaye de comprendre cette séquence d'évolution, il y a encore plein de détails qui sont incompréhensibles, c'est vraiment la frontière de la recherche. Pour pousser cette frontière, on a besoin de nouveaux outils, et je vous en présente deux. Un télescope spatial qui va être le successeur du télescope Hubble, donc c'est un télescope qui est développé par les deux grandes agences spatiales au monde, donc la NASA, l'agence spatiale américaine, et l'ESA, qui est l'agence spatiale européenne. C'est un télescope qui verra le jour en 2018, qui sera lancé en 2018. Et puis, au sol, la prochaine génération de très grands télescopes, développé par l'Observatoire européen dans l'hémisphère austral. Alors, pour continuer à comprendre l'univers, il faut aller de plus en plus dans l'infrarouge, puisque je vous disais que là, il y a ce décalage vers le rouge. Plus les objets sont distants, plus le spectre électromagnétique est décalé vers le rouge. Et donc, il faut que l'observation se fasse dans l'infrarouge. On ne peut plus observer les galaxies les plus distantes, en fait, ne peuvent pas être observées avec les longueurs d'onde visibles auxquelles on est habitué. Donc, on observe dans l'infrarouge, et le télescope JWST sera doté de caméras infrarouges pour observer l'univers à très très grande distance et remonter aussi près que possible de la première époque, c'est-à-dire vraiment le premier moment où les premières étoiles et les premières galaxies ont été formées. Pour le moment, cette époque-là, on ne l'a pas encore observée. On voudrait vraiment trouver l'époque où les premières étoiles se sont formées à partir de ces nuages de gaz d'hydrogène. Alors, c'est pas facile. Voilà justement l'illustration de ce que je vous disais. Ça, c'est trois images. Donc, trois images prises dans les longueurs d'onde visibles que l'on connaît, donc du bleu, de l'orange et du rouge. Et puis une troisième qui est prise dans l'infrarouge. Et bien vous voyez que dans les trois premières images, hein, cette petite, il n'y a rien du tout au bout de la flèche. Alors que dans l'infrarouge, hein, vous voyez, il y a un objet qui est détecté. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Hein, ces premiers objets qui ne sont détectés que dans l'infrarouge. C'est extrêmement difficile. Et il faut vraiment un très grand télescope dans l'espace et doté d'infrarouge pour observer ces objets. Voilà de quoi aura l'air ce télescope. C'est un miroir qui fait 6,50 m de diamètre, hein, donc un grand entonnoir à lumière, qui est protégé du soleil par soleil, et qui a donc au foyer du télescope un certain nombre de caméras et de spectrographes pour analyser la lumière distante. Alors un autre très grand instrument qui est en cours qui va bientôt être construit, c'est la prochaine génération de télescopes au sol. Et là, on parle de ELT, ELT Extremely Large Telescope, télescope extrêmement grand. Et donc là, le diamètre, je vous avais dit que le télescope VLT, qui est le plus grand télescope du monde aujourd'hui, fait 8 mètres de diamètre, il y en a 4 comme ça. Là, ça fera 42 mètres de diamètre, l'entonnoir à lumière. Donc c'est un pas considérable dans la capacité à acquérir des photons extrêmement faibles. Et là aussi, il observera dans le visible et aussi dans l'infrarouge pour observer ces objets très, très distants. Voilà les vues d'artiste du concept qui est développé aujourd'hui. Donc vous voyez l'échelle, hein, ça c'est un Airbus A380 qui est ici. Vous voyez que par rapport à un Airbus A380, c'est vraiment gigantesque. C'est un observatoire qui sera absolument incroyable et qui nous permettra vraiment, on l'espère, d'aller voir les premiers instants de la formation des étoiles et des galaxies. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que je vous ai convaincu que l'univers est un contenu qui est assez divers, que ce contenu évolue, qu'on est capable de le quantifier, de le modéliser et de le mettre en équation, mais qu'il y a encore des grandes questions. Et ces grandes questions, ça forme la base de la recherche. L'exploration continue et on prépare cette exploration avec de nouveaux moyens. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais répondre à vos questions. Merci.